French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast. Si vous écoutez le podcast, il y a de grandes chances que vous connaissiez déjà ma voix. Moi, c'est Anne Fleur, mais on ne s'est pas beaucoup vu. Je vous parle donc depuis Boston, depuis mon salon. Ça ne se voit pas, mais c'est le bazar. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour lancer ce nouveau format de French Expat, le podcast. Alors, pas de panique, les interviews continuent tous les lundis. Comme vous les connaissez, on a plein de surprises en rayon pour cette saison. Mais nous lançons pour la saison 2 donc un nouveau format qui s'appelle les French Expats qui bougent. C'est une interview vidéo et on part à la rencontre de French Expats, donc d'expats francophones un peu partout dans le monde qui bougent pour leur communauté, qui créent quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, nous partons en Californie. Alors bienvenue dans ce tout premier épisode de French Expat qui bouge. L'épisode est disponible donc en IGTV sur Instagram ainsi que sur votre plateforme de podcast préférée. Alors bienvenue à mon invité. Salut Charlotte, comment ça va ?
Eh bien je vais très bien, merci Anne Fleur de m'accueillir aujourd'hui dans le podcast, je suis super contente.
Eh ben moi aussi, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis merci, hein, pour ceux qui ne le savent pas, merci pour ta patience, puisque ça fait, je crois, 39 minutes que nous galérons avec la technique, heureusement que c'est pas en direct, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un peu renoncé au format live pour ces interviews. Alors aujourd'hui, je le disais, c'est un format un peu particulier, on va parler de tes créations, de ce que tu fais dans la vie et de ce que tu t'apprêtes à faire dans quelques jours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ou te représenter pour ceux qui te connaissent pas ou peu, nous dire un peu bah voilà qui tu es, quel âge tu as, où tu vis, d'où est-ce que tu nous parles, d'un très beau salon soit dit en passant, et à quoi ressemble un peu ton quotidien.
Bah super. Alors déjà merci encore une fois de m'accueillir parce que j'ai l'impression de faire partie d'une grande famille. Je vous écoute depuis un moment et c'est chouette de passer de l'autre côté. Donc effectivement, je vous parle de mon salon, d'une maison qui se situe à Berkeley. Donc Berkeley, c'est une ville qui est très connue pour son université et qui se trouve en face de San Francisco, donc dans la baie de San Francisco. J'habite là depuis 5 ans. Je suis arrivée, j'ai suivi mon mari en fait dans son aventure professionnelle. Il venait développer sa start-up ici. Alors non sans mal parce que j'ai mis très longtemps avant de dire allez on y va. Ça a été un petit peu long. Bah, quitter tout ce que t'as construit, c'est très challenging. Et puis je m'étais jamais projetée dans ce genre d'aventure.
T'avais jamais vraiment eu envie en fait de vivre à l'étranger. C'était son projet en
pas
fait,
du tout
ça.
J'ai un peu dans mon boulot et du coup jamais je m'étais dit je vais aller vivre à l'autre bout du monde. Et puis la Californie, ça reste quand même un peu loin, loin de la
famille. Super loin, ouais.
Voilà. Donc c'était pas un choix très très simple, mais que j'ai fini par faire.
Bon, et parlons-nous franchement, il a mis combien de temps à te convaincre ton mari de venir t'installer à l'autre bout du monde?
Une bonne grosse année
quand même.
Ouais, c'était vraiment il avait envie de ça, il savait que c'était une étape importante pour lui de son développement au niveau de sa boîte et du coup, il m'en parlait régulièrement puis je laissais un peu le truc couler, je me disais ça va lui passer. Et puis ça ne m'y est pas passé. Et puis j'ai suivi et c'est vrai que voilà, quand on est habitué à être indépendant, se gérer soi-même, se retrouver à suivre son mari, ça met dans une position qui est quand même, moi j'ai beaucoup lutté en fait avec ça. Donc ça c'était il y a 5 ans. En quelques mots, donc je vais avoir bientôt 41 ans, fin du mois d'août là.
Félicitations.
Voilà. Et du coup, j'avais derrière moi avant d'arriver ici une carrière de journaliste. J'ai eu un parcours très classique. Je fais des études de lettres, une école de journaliste. et j'étais spécialisée à la fois en télé pour des magazines de société et j'écrivais toujours pour la presse jeunesse principalement. Et c'est vrai que du coup, bah, partir, ça voulait dire mais qu'est-ce que je vais faire là-bas ? J'étais rédactrice en chef sur des émissions de télé et puis je me voyais pas du tout dans la presse américaine. À plusieurs titres, c'est une autre manière de faire. Faut maîtriser des codes culturels que je ne maîtrisais absolument pas. Ouais. Et du coup, ça demandait de se redéfinir. Donc voilà, expatriation pour moi, c'était sauter un peu dans l'inconnu. Ouais. C'était un gros challenge parce que j'ai passé plusieurs mois à me dire, mais en fait, voilà, j'avais repris des études de psychologie aussi en parallèle de mon boulot. J'étais en région parisienne à Paris. Et je me disais, bon, alors mes études ici, bon, ça me sert à rien. Mon boulot, je peux pas le transposer. Je suis dépendante de mon mari, ça va donc très très mal se passer. Je me suis quand même décidée à voir les choses un petit peu plus positivement. Et je trouve que l'expatriation aussi, le revers de cette partie-là, ça fait se poser beaucoup de questions, mais ça permet de se rencontrer aussi et de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous motive dans le fond, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie d'intégrer ce qu'on sait faire à une autre culture, à un autre environnement. Et de là, j'ai commencé par un blog qui a eu un très chouette accueil. Je pense que tout ce qui me réunit, en fait, tout ce qui, dans toutes les expériences que j'ai pu avoir professionnelles ou autres, je pense que le fil rouge, c'est que j'adore l'humain, j'adore les gens, je suis très curieuse de nature. Et j'aime bien les accompagner, d'où l'aspect un peu psycho aussi. Ouais. Et tu vois, j'ai beaucoup travaillé pour des émissions comme Ça se discute, notamment. C'est ma vie qui était sur M6 à l'époque, où vraiment on donnait la parole aux gens. Ouais. Il manquait ce petit côté un peu psycho, enfin connaissance en fait. Et donc de là, je me suis dit, ce qui pourrait allier les deux, c'est d'écrire des bouquins. Voilà, j'adore.
Bah ouais, carrément.
J'adore les mots, j'adore écrire. J'ai un très chouette accueil avec le blog. Pourquoi pas. Et donc l'expatriation m'a permis de mettre vraiment faire exister un rêve auquel j'avais pas vraiment pensé, c'était là en fait, mais pas autant. J'avais toujours dit un jour j'écrirai, mais là je me suis dit c'est peut-être le moment de mettre mes compétences au service de mes envies, quoi.
Alors la question qui me brûle les lèvres un peu là-dessus, si tu veux, c'est je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le cheminement. Parce que tu nous racontes donc ce cheminement, tu nous racontes bien sûr c'est l'interview en quelques secondes tout ça. Tu donnes presque l'impression en fait que ça a été facile et rapide. C'est une question qui se pose énormément puisque quand on s'expatrie à deux, très 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 souvent la grande majorité des cas, il y en a un qui suit l'autre. Et c'est d'ailleurs sociétalement, j'aime pas trop les clichés, mais c'est vrai, c'est souvent la femme qui suit l'homme. Donc j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur ce cheminement. Comment ça s'est passé, le temps que ça t'a pris, mais comment raconte-nous un petit peu.
Non, alors effectivement, ça ne se fait absolument pas du jour au lendemain. Je peux même te dire, encore à l'heure T, ça fait 5 ans qu'on est là et je me pose encore des questions. Je pense que l'expatriation s'accompagne de tonnes de questionnements sur le plan personnel, professionnel, amicaux. Enfin, ça bouleverse tous les repères en fait. Et donc, ça ne s'apprend pas en 2 minutes. Et moi, j'ai été une première année, on va dire, les premiers 6 mois, t'es dans la découverte. Donc, il y a aussi ce côté, j'avais des yeux d'enfant, c'était génial parce que j'avais l'impression d'être en vacances. Puis un jour, j'ai compris, mais en fait, je suis pas en vacances, je vis là. Donc, je ne vais pas rentrer, retrouver mes petites habitudes et mes petits repères.
Il n'y a pas de fin, bien sûr.
Donc ça s'est accompagné de, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup réfléchi et puis j'ai tâtonné aussi, j'ai essayé. Je me suis dit, je suis ici, c'est bien de bosser pour des boîtes américaines aussi. J'avais la chance d'avoir un permis de travail à cette époque.
Et tu maîtrisais bien l'anglais d'ailleurs ?
Correctement. On va dire que mon accent, au bout de 2 minutes, on me dit « Oh, you're so French, you're so cute !» Mais voilà, donc ça se voit que je ne suis pas complètement bilingue, ça s'entend, je dirais. Mais par contre, j'avais pas trop de soucis de compréhension et puis je m'exprimais quand même, je me faisais toujours bien comprendre.
Ouais, d'accord.
J'ai pu travailler chez Apple, à Cupertino ici. J'écrivais pour Apple Music, donc je faisais des playlists, des bios d'artistes.
C'est toi qui fais que de mettre à jour les playlists que j'écoute avant que je les enregistre. Ok.
Non, j'ai fait ça plusieurs mois en effet, et c'est vrai que typiquement c'était une expérience qui a permis de nourrir un peu ce qu'il y avait au fond de moi, tu vois, de se poser les bonnes questions parce que je me disais j'adore écrire, c'était très loin de chez moi, donc j'ai mis cours à la mission au bout d'un certain nombre de temps. J'ai eu des soucis de santé et tout ça, et du coup j'ai arrêté. Mais tu vois, essayer, se confronter. Ouais. Aussi, je me suis inscrite à plein de formations. Ici, on avait une structure qui s'appelle la Berkeley Adult School où ils offrent plein de formations à des prix très raisonnables. Donc, je me suis dit, j'ai du temps. Je suis une éternelle étudiante. Hein, j'adore apprendre. Mais l'expatriation, c'est aussi ça, c'est apprendre sur les gens qui t'entourent et puis les rencontres.
Sur toi.
Puis c'est un terrain d'opportunité aussi. Ça, c'est un truc que je voyais pas avant de partir. C'est que les questions qu'on se pose, c'est compliqué à gérer et c'est dur moralement parfois. Moi, il y a des matins, je me levais, je me disais, il faut tout recommencer à zéro, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Et ça, c'est dur. Et puis, il y a d'autres matins, tu te lèves et tu dis, mais en même temps, c'est super, j'ai un regard d'enfant et puis je suis comme neuve ici. Donc, il faut en profiter. C'est les opportunités qui ont fait que. Et puis, j'ai écrit un bouquin sur la ménopause pour une maison d'édition française qui m'a un petit peu mis aussi le pied à l'étrier de me faire confiance sur l'écriture et de me dire, peut-être que dirige-toi vers ça, c'est ce que t'aimes, essaye. Et puis, les choses se sont un peu enchaînées. J'ai suivi une formation aux États-Unis sur le milieu de l'édition, parce que c'est complètement différent ici qu'en France, évidemment. Ouais. Et du coup, je me suis dit, allez, on se lance. Donc, j'ai monté une structure avec mon chéri qui, évidemment, lui, il est moteur dans tout ce changement depuis le début. Donc, il me soutient beaucoup et il me pousse un petit peu à aller dans mes retranchements, à aller chercher, à aller puiser un peu les ressources pour se dépasser et pour essayer de... Les projets, moi, je marche à la passion un peu au projet. Et du coup, c'est vrai que tu as les yeux qui brillent, tu fais « Ah, c'est super, j'aime bien l'idée !» Sauf qu'évidemment, ça se fait pas en deux secondes. Donc, c'est du travail beaucoup derrière. Et après cette formation, je me suis dit « Allez, c'est une idée qu'on avait depuis des années. Hein, » Donc, on parle de ce bouquin. C'est pour ça d'ailleurs que tu m'as contactée, mais je le montre. C'est l'histoire d'une petite fée qui vient visiter les familles pour les aider à supprimer la tétine des petits. L'idée vient d'une histoire complètement personnelle puisqu'on nous on avait
raconte un petit peu. Donc du coup, ce que tu me racontais, c'est que c'était lors d'un retour en France, un séjour en France, de vacances en France, je sais plus exactement, tu peux nous raconter un petit peu. Et l'idée en fait t'es venue ou l'idée t'est pas venue tout de suite pour créer cet imaginaire autour de cette grande étape de la vie, tu peux nous raconter?
En fait, on a des enfants qui ont adoré avoir une tétine pendant plusieurs années. Et quand ce moment est arrivé, qu'il y a un moment, on peut pas sortir avec la tétine à l'école. Non, il faut arrêter. On a essayé plein de choses et il y a rien qui marchait. Et puis, jusqu'à ce que je dise même à ma fille, écoute, peut-être on pourrait laisser la tétine au Père Noël. Il prend ta tutute et puis hop, il amène les cadeaux. Et ma fille m'a répondu, non, mais tu sais, je préfère pas avoir de cadeaux, maman, cette année. Et donc là, je me suis dit,
oh là là, ça va être difficile.
Et puis, l'été qu'a suivi cet événement, évidemment, elle a gardé sa tétine à Noël. Elle résistait. Alors, elle la prenait pas dehors, mais c'est vrai que même pour elle, comme ils disent, c'est un milestone important dans la vie d'un petit bout. Et on voyait que c'était compliqué pour elle. Et du coup, quand on est parti en vacances avec des amis, leur fille avait le même souci et a perdu sa tétine. Et on se dit, c'est le moment ou jamais. On l'a retrouvée, on ne leur a pas dit. Et on a fait intervenir un petit personnage imaginaire qu'on a appelé la fée tétine et qui venait déposer des lettres à intervalles réguliers pour les encourager, pour leur dire combien elles étaient fortes. Parce que du coup,
elles ont arrêté en fait les deux en même temps, c'est ça?
Exactement.
Comme entre potes, on arrête de fumer, on a arrêté la tétine ensemble.
Et c'est exactement ça. Et du coup, il y avait ce petit personnage et puis on a offert un petit livre avec la première lettre et on s'est dit, mais il y a vraiment un truc sympa derrière. Et ces questions un peu de challenge dans la vie à tous les âges, la ménopause à la tétine, donc
c'est clair.
Et puis de là, on s'est dit, ce serait chouette d'en faire un petit bouquin pour aider les familles. Et du coup...
Alors, je t'arrête juste une seconde. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. D'où vient cette fée tétine? Donc, la Passita Fairies. Pacifier, Passita, j'imagine, donc c'est ça. Parce que vous auriez très bien pu dire, c'est papa-maman qui te récompense pour ce que t'as fait. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de construire tout cet imaginaire autour de ce grand, cette grande étape, ce grand challenge pour les enfants?
Super question. Alors déjà, parce qu'on n'avait pas envie de le prendre, nous, en tant que parents, sur les épaules. On voulait les soutenir. Mais on s'est dit que comme il y a beaucoup dans l'enfance, il y a beaucoup de personnages comme ça qui aident à soutenir certaines étapes, grandes étapes de la vie des enfants. Et en fait, c'est vraiment parti de... je pense qu'on est tous... nos amis et nous, on était aussi dans cette démarche un peu... On aime l'imaginaire, on aime ce genre de choses. Donc, on s'est dit, ça peut être sympa. Et Il s'avère que c'est quelque chose qui existe parce que après on a vérifié quand on a eu notre
bien sûr,
on n'était pas nouveau du tout à arriver avec cette idée. C'est comme la petite souris pour les dents ou la petite fairy. Et ben ça existait déjà. Alors beaucoup plus dans le monde anglophone qu'en France où c'était beaucoup moins connu.
D'accord. Ouais. Bah ouais. Moi je n'avais jamais entendu parler avant ton histoire, hein, pour être honnête.
Pareil. C'est vraiment en vérifiant. Et puis de là, on s'est dit bon, on aimerait bien écrire une petite histoire parce que on trouve ça chouette et ça a marché pour nos filles. Ouais. Allons-y quoi. Et j'ai écrit l'histoire avec mon chéri, qui est musicien, qui adore les mots aussi. Et on voulait quelque chose d'un peu rythmique, musical, poétique. Et puis moi, je dis oui, mais si on aide les familles, ça c'est bien côté enfant. Mais moi, j'ai aussi envie que les parents et des infos.
Et toute la famille, quoi.
Et vraiment, voilà, que ce soit un projet vraiment ensemble. Et donc, on a rajouté des pages à la fin de ce bouquin qui sont des pages d'infos avec plein de petites astuces. Moi, j'ai fait une enquête sur le sujet et j'en ai fait ces pages-là. Et on a aussi interviewé une experte, une psychologue qui a donné son éclairage. Tu parlais, pour rebondir sur la question que tu venais de poser, quand j'ai interviewé la psychologue, elle disait, alors oui, les petits cadeaux, c'est très bien, tout ça, parce que nous, on accompagnait de petits cadeaux. Mais elle disait, le problème, c'est que si tu fais des petits cadeaux, l'enfant, il comprend pas vraiment, il se dit, je vais faire ça pour avoir un cadeau, en fait. Ouais. Et du coup, faut enlever un peu ce côté matériel et vraiment aller axer sur les compétences et les qualités.
Le développement de l'enfant.
Ouais. Voilà, va développer, tu vois, parce que c'est vrai qu'il faut du courage, faut de la ténacité, hein, parce que tu peux ne pas l'avoir pendant 24 heures et puis, il faut mettre des petites stratégies en place, tu vois, au lieu de donner la tétine quand il se fait bobo ou qu'il se sent fait mal, eh ben, tu vas chanter une chanson ou tu vas développer un autre rituel. Et donc, du coup, c'était super bien d'avoir aussi cet éclairage-là.
Ouais, non, super, c'est clair. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir feuilleter, du coup, le livre avant qu'on se parle et c'est vraiment super bien fait. Tu nous as parlé d'ailleurs d'une formation dans l'auto-édition, dans l'édition, justement, c'est moi qui fais cet amalgame. Est-ce que tu peux nous en parler, du coup, ce n'était pas sur l'auto-édition, c'est ça?
Comment on devient éditeur? Parce que je voulais pas auto-éditer le livre, je voulais vraiment qu'il y ait une structure d'édition derrière. C'est un livre qu'on avait signé avec une maison d'édition en France et c'est une toute petite structure qui a fait faillite. Et donc à l'issue de ça, on a pu récupérer nos droits et là je me suis dit ben, est-ce que j'ai envie de tout recommencer avec une nouvelle maison d'édition? J'ai mes droits, j'ai envie de... Bon, j'aime bien le côté entrepreneuriat, c'était aussi une aventure, on s'est dit on lance ce projet.
Quoi. D'accord, ok. Donc du coup, vous avez commencé cette aventure en France. Finalement, vous êtes basé aux États-Unis. Vous décidez donc de relancer, donc une fois que vous avez récupéré les droits, la suite de cette aventure aux États-Unis, dans un pays anglophone. Donc ça se fait en anglais. Hein. Maintenant, le livre, il est en anglais, pour ceux qui l'auraient pas compris. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, de musicalité des mots, que c'était quelque chose qui était très important pour vous. On a beau parler anglais, t'as beau être aux États-Unis depuis 5 ans, t'es pas forcément poète. Comment est-ce que t'as travailler ça? Est-ce que tu t'es fait aider? Comment ça s'est passé?
Eh bien, écoute, on s'est fait aider hein, parce que c'est vrai que l'histoire était écrite en français avec les rimes en français, le jeu de la musicalité en français. Rendre ça en anglais, tu peux le faire de manière un peu froide, j'allais dire, parce qu'il te manque toujours ce petit truc culturel, je trouve, qui te permet certains jeux de mots que tu connais pas forcément, bien ou sûr. Certains usages dans la parole que toi, t'as pas. Et donc, au départ, on a commencé à vouloir traduire, et puis je trouvais que ça restait un peu statique. Et en fait, on a travaillé, du coup, avec une coach qui nous avait aidé quand on est arrivé ici, notamment mon mari dans le cadre de son entreprise, pour l'anglais, pour la confiance en soi. Et elle est super, elle est vraiment... elle est géniale et elle a vécu en France pendant 4 ans. Elle est mariée à un Français. Donc, elle avait vraiment cette double culture. Ouais. Et elle adorait l'idée. Elle nous a dit, je vais regarder un petit peu. Je lui ai envoyé le texte en français. On a vu ses propositions. Et on s'est dit, ça marche super bien.
Ah,
et
génial.
On a travaillé en trio pour l'édition américaine, quoi. Et on espère super. Que le français verra le jour.
Ouais.
L'accueil.
C'est aussi en projet, quoi.
Ouais, bien sûr.
D'accord.
Okay, donc on s'est dit on va pas faire ça en France et le gérer. Moi je travaille beaucoup avec la France et puis à un moment donné tu dis non, je vis ici, si je pouvais quand même vivre les choses là où je vis, c'est quand même un peu mieux quand même. pratique.
Puis contribuer, du coup, contribuer à la communauté locale. Exactement. En tant qu'expat, c'est une grande fierté aussi. Enfin, expat, immigrant, peu importe comment on s'appelle finalement, mais c'est vraiment super. Du coup, je voulais te demander aussi, donc là, au moment où on se parle, on est au mois d'août, ton livre sort au 1er septembre, donc dans quelques jours, ce sera il y a quelques jours quand cette vidéo sortira, certainement. Mais il devait sortir il y a quelques mois. Évidemment, il y a le contexte mondial que tu connais, qu'on connaît tous, qui est le coronavirus, la pandémie. Comment est-ce que ça se passe, la promotion? Comment est-ce qu'on lance un livre, finalement, dans un contexte pareil? Ça doit pas être évident. Tu peux nous en parler un petit peu?
J'aimerais te répondre avec, tu vois, le côté expertise. Oui, alors, c'est un apprentissage du quotidien. Hein. Ouais. Je pense que ça va avec l'expatriation. Pour moi, c'est une sorte de sport un peu gourmand en énergie, tu vois.
Remise en question permanente.
Ouais. Voilà, c'est pareil. Tu composes avec les éléments. Évidemment, personne n'attendait le Covid. Il devait sortir en mai. Ah ben, on était en plein confinement, toutes les librairies fermées.
Ouais, c'est clair. Et puis surtout, en Californie, vous n'avez pas été épargné quand même.
Oh, bah, et puis ça s'arrange pas du tout. Hein. On va pas. Voilà, là, c'est les écoles ne réouvrent pas à la rentrée. On est vraiment parti sur un truc qui, je sais pas combien de temps ça prendra, mais c'est compliqué. Ouais. Donc déjà, on s'est dit effectivement, on n'a pas envie de le sortir maintenant parce que pour nous, c'est comme mettre au monde un bébé qu'on a depuis plusieurs années. Enfin, moi, ma fille, elle va avoir 10 ans. L'histoire de cette tétine, c'était quand elle avait 4 ans, 4-5 ans, tu vois. Et donc, du coup, et puis il y a eu l'aventure en France. Et c'est vrai qu'on a envie de faire ça bien. Et là, on s'est dit, on avait le homeschooling, les enfants à la maison, on était débordés. Du coup, on l'a décalé en septembre, pensant que tout serait réouvert. Donc, voilà, on en est là. Le bouquin sort quand même le 1er septembre. On n'a pas envie de décaler une nouvelle fois. On va s'adapter aussi à ça. Mm-hmm. On va faire beaucoup plus de choses en ligne. Sortir un livre aux États-Unis, c'est un énorme challenge pour des petits Frenchies qui débarquent. Et puis, il y a eu toute la chaîne de gestion avant, gérer le... On a fait faire ça à Singapour. On voulait que ce soit fait avec du papier dans des forêts responsables.
Quand on se lance, on a... dans les précédentes boîtes que j'ai montées, c'est vrai que on a souvent l'ambition en fait de bien faire, mais c'est vraiment pas facile, surtout quand on se lance. Donc quand on a par définition beaucoup moins de moyens, tu vois. Moi, dans mon exemple, c'était une campagne de crowdfunding et c'était donc créer en fait des récompenses, des goodies de toutes sortes. Clairement, les merdes écologiques sont pas chères, tu vois. Donc voilà, donc c'est vraiment génial que vous ayez réussi à délivrer finalement à la hauteur de vos ambitions. Bravo, parce que je sais que c'est pas facile. Alors du coup, je suis un petit peu curieuse de savoir comment est-ce que ça se répercute sur le prix. Il coûte combien ce livre?
Ah, mais c'est une bonne question. Attends, 14,90, ouais, $14.90. On l'a.
Ok.
On voulait pas que ce soit trop cher parce que c'est vrai que les livres ici, c'est l'illustré, fait des dessins, mais qui sont trop chou.
C'est adorable.
Ça, c'est notre petit personnage qui est ici, le petit lion là, qui a une famille adorable. Et c'est vrai que voilà, il est, tu vois, un livre comme ça ici se positionnait un peu au-dessus. Mmh. C'est un premier livre, on voulait qu'il reste accessible au grand nombre. Et puis encore une fois, on apprend. Donc en fait, ça se trouve, on va pas être très rentable sur ce livre. Et puis, si on en fait d'autres, ce qu'on espère dans la veine de ces petites séries là, on montera peut-être un petit peu le prix. Est-ce que non, ça a très bien fonctionné? On peut se permettre de rester au même prix. Tout ça, ouais. Ça va s'ajuster.
Ah bah, ça, c'est sûr.
On est en pleine promo. On commence tout juste à démarcher un petit peu. Mais c'est pareil, c'est la jungle. J'ai l'impression d'être partie dans l'Amazonie avec une machette. Et puis, tu vas couper mes mains. Donc, et puis, du coup, tu te sens hyper angoissée. Et c'est exactement comme l'expatriation. Je suis un peu dépassée. Ouais. Et on fera du mieux possible. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça qui compte. C'est le faire... avoir le sentiment de l'avoir fait vraiment avec ton cœur. Tout coûte cher, faire une promo. Des fois, les gens, un influenceur peut te demander plusieurs centaines de dollars pour un poste.
Ah mais c'est clair. Nous, on a eu même des invités, dont bien sûr, je tairai le nom, qu'on avait contacté donc pour interviewer sur le podcast et qui en fait nous ont répondu en nous envoyant un devis pour $1,500 ou 1500 euros, je sais plus, pour pouvoir être sur le podcast, ce qui bien entendu n'était pas possible.
Je découvre ça et... je trouve chouette, j'ai déjà des expats qui m'ont dit, qui ont vu que je travaillais là-dessus, qui m'ont envoyé des petits messages de soutien. Enfin, il y a aussi une solidarité dans notre...
Alors justement, je voudrais justement qu'on fasse une petite pause pour rentrer vraiment en profondeur là-dessus. La communauté expatriée en général, que ce soit de n'importe quelle nationalité d'ailleurs, est généralement très très solidaire. Je me souviens, je crois que c'était Claire dans la saison 1, je crois que c'était en Malaisie avec Kuala Lumpur, qui prenait cet exemple que beaucoup, avec lequel en fait beaucoup sont d'accord. C'est-à-dire que t'arrives en fait dans un endroit que parfois tu ne connais pas du tout, où tu ne connais absolument personne, et finalement en fait le simple fait de venir du même pays, les gens t'accueillent à bras grands ouverts et célèbrent en fait tes succès autant que finalement les challenges, les difficultés en fait deviennent collectives et on essaie de les adresser tous ensemble et voilà, enfin je trouve ça vraiment hyper précieux et je crois que c'est difficile même à appréhender tant qu'on n'est pas parti à l'étranger, on peut en avoir conscience, mais voilà, je serais intéressée en fait de savoir du coup comment est-ce que la communauté locale peut-être à Berkeley, la communauté francophone ou francophile de la baie de San Francisco, mais aussi aux États-Unis. Je pense qu'on est tous très fiers, en fait, quand il y a une Frenchie qui réussit. Et d'autant plus quand c'est une femme. Moi, je trouve que c'est hyper important de mettre en avant, en fait, voilà, les parcours de femmes aussi qui réussissent. Donc, voilà, comment ça se passe de ton côté? Raconte.
Effectivement, je suis un peu timide, tu vois, sur les réseaux sociaux. J'ai pas encore mis grand chose, mais j'ai raconté un peu les étapes de ce projet. On a fait un website, on s'est bougé quand même pour déjà que l'objet nous plaise et plaise. Ouais. Grand nombre. Et puis t'en parles un peu. Moi, j'ai toujours été très soutenue depuis qu'on est là. C'est vrai, c'est exactement ce que tu disais. On est arrivé ici. Moi, j'ai rencontré des gens. Ça te bouscule un peu, encore une fois, dans tes repères. Et tu te mets à parler à des gens. J'aurais jamais rencontré ces personnes-là autrement, en fait. Ouais. Et puis, il y a pas les mêmes jugements. Et c'est vrai qu'il y a cette solidarité. Moi, je sais, quand je me posais beaucoup de questions à l'arrivée, il y a des gens qui me disaient, mais ce que tu fais sur le blog, c'est hyper bien. Pourquoi tu penses pas à écrire? On aime bien tes photos. Alors, dans ta tête, ça connecte. Puis, c'est des gens qui te soutiennent, tu vois. J'ai fait une conférence à l'Alliance française de Berkeley, une toute petite alliance française. Il y a plein de monde qui est venu. J'ai fait ça pour le bouquin sur la ménopause. Ouais. Qui d'ailleurs, va ressortir, mais là, en France, au mois de septembre, avec une très chouette maison d'édition. Tu vois, je me suis dit, la ménopause, ça va pas intéresser. On n'est pas dans du grand public, c'est sur des niches. Beaucoup de filles, évidemment, qui sont venues. Mais pour me soutenir, pour me dire, en fait, on aime ce que tu fais, on a envie que tu continues, et on sera là, et on est là. Ouais. Et ça, c'est trop chouette. Et puis, tu vois, Fanny, vous avez interviewé aussi Fanny French Family. M'a dit d'office qu'elle parlerait du bouquin. Tu vois, donc, ça, c'est des trucs. Mais c'est des personnes que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux d'expat. Et tu te sens appartenir à une famille. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, parce que quand tu arrives dans un coin que tu connais pas, t'as un petit sentiment d'être isolé quand même. Et nous, comme je te disais au début, en Californie, t'es loin, il y a un décalage horaire qui est important. Donc, les gens avec la France, tu rates le créneau, boum, il y a plus personne. Et puis voilà. Donc ça, cette communauté, moi, ça m'a vachement boostée. On a un très chouette accueil. Et les Américains aussi, on est dans une école internationale. Franchement, je trouve les gens très bienveillants globalement. Et c'est ce qui booste en fait dans les moments aussi où tu dis non mais dans quoi je m'embarque, ça te booste en fait.
Alors, une autre question que je voulais te poser d'ailleurs, c'est donc vous avez créé cet imaginaire, vous avez imaginé toute cette histoire, tout ce monde un peu merveilleux pour ta fille qui maintenant donc a 10 ans. Donc c'était il y a 5 ans qu'elle a arrêté la tétine, hein, si j'ai tout suivi. Elle a conscience que vous racontez finalement une partie de son histoire, que vous racontez l'histoire de cette fée, Pasita. Et voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous en avez parlé un petit peu avec elle?
Oui, bien sûr, parce que et si tu veux, c'est comme tous les personnages, comme le Père Noël, t'as pas envie de duper tes enfants non plus. Tu vois, il y a un côté. Alors, il y a des écoles très différentes sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a aussi des experts, les psys notamment, vont te dire voilà, le Père Noël c'est bien, mais enfin. C'est une légende, c'est une histoire. Ouais. Et donc, on l'a vraiment axé un peu comme ça aussi, comme un conte, si tu veux, poétique, ouais. Plus que comme un personnage mordicus. Alors, notre fille, quand elle a été déçue, parce qu'évidemment, quand elle a compris que la fée tétine n'existait pas, c'était avant le projet du livre, elle n'était pas super méga contente, évidemment. Et on a fait pareil, on a fait intervenir cette petite fée tétine pour mon fils.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, est-ce que vous avez répliqué l'essai avec ton fils?
Même, hein, ça a tellement bien marché. Bon, il était moins addict, ça a été un peu moins difficile. Mais c'est vrai que il a aimé aussi. Et quand on leur a dit qu'on avait ce projet, ils ont trouvé ça chouette. Enfin, tu vois, elle était toute fière quand elle a vu le livre. Elle aime beaucoup les dessins. Et on leur a fait, je pense, tu vois, une petite dédicace ainsi qu'avec à nos amis, avec lui. Mais tu vois, on leur a mis un petit mot à Ava et Raphaël, parce que c'est vrai que le monde de l'enfance, c'est aussi le monde de l'imaginaire, et que du coup, c'était indispensable, évidemment, on n'aurait pas fait ça sans eux, quoi.
Bien sûr. Bon, c'est super, c'est vraiment une belle histoire familiale. Pour finir, est-ce que tu aurais des conseils, des communautés, des outils, des ressources auxquelles tu as eu recours? J'imagine qu'il y a aussi un travail sur soi, c'est de l'entrepreneuriat finalement. Pour se lancer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire en fait à celles et ceux qui ont une idée, qui sont expats, qui sont peut-être un peu isolés et qui ont une idée, qui ont un peu du mal à faire le grand saut?
J'ai surtout envie de dire qu'il faut essayer de se faire confiance. Écoutez, moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup déjà à la base et je me pose énormément de questions. Alors, tu mets l'expatriation là-dessus, où qu'elle soit, je pense que c'est partout pareil, ça en rajoute encore une couche et d'un seul coup, tu deviens un peu… Il y a trop de questions. Mais dans le fond de ces questions, il y a aussi plein de bonnes questions et il faut savoir les écouter. Et je trouve que justement, quand tu bouges et que tu bouscules un peu tes repères, c'est un moment vachement intéressant parce que ce qui émerge, c'est pas pour rien. Et donc, tu vois, il y avait effectivement le côté écriture, le côté édition. Des fois, je me dis, j'avais envie de faire ça, mais effectivement, je l'aurais peut-être pas fait si je m'étais pas sentie aussi bien boostée par les uns et les autres. Peut-être que il y a eu Estelle Tracy, effectivement, depuis le tout début, je suis sur son groupe Facebook de blog parce que ça m'a aussi effectivement aider à me booster dans le blog. Au début, t'as pas de lecteur et puis c'est pas que t'écrives pour les lecteurs, mais tu sais pas comment ça marche. Et donc du coup, il y a un partage d'expérience qui est vachement intéressant, de compétences aussi, et ça c'est super chouette parce que ça t'aide. Et puis après, je trouve que autour de nous, et ça aussi c'est des opportunités dans les rencontres que tu fais, toutes ces rencontres c'est des opportunités d'ouverture à d'autres domaines. Tu vois, je te parlais de la formation, je suis allée voir un petit peu, j'ai trouvé une formation en ligne ici qui était vraiment top. Je me suis dit, allez, on se lance. En fait, faut pas avoir peur de se lancer et puis il faut tester. Ça veut pas dire que ça marche, tu vois, il y a aucune garantie à ça. Par contre, je pense que c'est vraiment un élan qui peut être que bon parce que ça résonne avec des choses. On a tous besoin de se sentir intégré là où on vit, là où on est. On a envie. Moi, j'aime produire, j'aime créer. Donc, j'arrive à accomplir ça. C'était génial. Donc après, sur les communautés, c'est plutôt aller chercher, rester hyper curieux parce que
tu vas attendre que ça vienne à toi en fait, finalement.
Mais exactement. Et tu sais, moi, je sais, à un moment donné, Instagram, par exemple, c'est très chronophage. Tu dis, mais je suis sur des photos en train de liker des trucs, mais je pourrais bosser à la place. Mais en fait, ce que j'ai appris sur Instagram, c'est énorme. Parce que, pareil, j'ai fait des rencontres. J'ai vachement aiguisé mon œil en photo, dans mes textes, dans ce que j'apporte. Enfin, je suis journaliste, j'aime informer. J'arrive à le faire aussi par ce biais-là. Et derrière, t'as une petite communauté et c'est super. Tu vois, là, je fais partie d'un club de lecture. J'ai su ça sur Instagram.
Ah oui, moi aussi, je crois qu'on est dans le même, celui d'Élodie.
Parce que du coup, tu vois, j'aurais peut-être pas lu ce bouquin. En fait, je le lis, que j'aime ou j'aime pas, ça m'a apporté vachement. C'est ça, en fait. Toutes ces communautés-là, t'es pas obligé d'adhérer, t'es pas obligé d'aimer. Mais par contre, c'est bien de rester curieux et ouvert parce que je trouve que quand t'es expat, c'est un véritable atout. Tu vois, des gens sur la côte Est qui m'ont beaucoup aidée, que je n'ai jamais rencontrée. Enfin, donc, c'est ça, c'est des conseils. C'est un petit mot, un petit mot, des fois, sous un article. Et tu te dis, oh, c'est cool. Ça te rend bien parce que tu te sens utile et tu te sens faire partie d'un club, en fait.
Tout à fait.
Très large.
Alors, pour finir, il y a plein de sujets dans lesquels j'aimerais qu'on s'engage dans cette discussion, mais c'est vrai qu'on avait dit que ce format vidéo, on aimerait qu'il soit relativement court. Finalement, je suis pas sûre qu'il soit hyper hyper court. Mais du coup, pour terminer, j'aimerais bien te poser la question si tu pouvais en fait venir te chuchoter quelques mots à l'oreille il y a 5 ans, si tu pouvais aller donc parler à toi, Charlotte, d'il y a 5 ans, quels seraient, je sais pas, les conseils que tu te donnerais, des choses qui auraient peut-être pu te faire gagner du temps, qui t'aurait peut-être, je sais pas, évité des déceptions ou qui t'aurait boosté un petit peu plus dans tes projets, ce serait quoi ces conseils?
Le truc, c'est que je trouve que les questionnements sont un peu permanents et que, comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai pas toutes les réponses. C'est un apprentissage permanent. Et ça, vraiment, je le pense à plein de niveaux dans la vie. De toute façon, on est tous là pour apprendre, donc faut vraiment rester curieux. Mais effectivement, ce que je me dirais, c'est peut-être de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. je peux avoir, et je pense que quand t'es un peu créatif, ça s'accompagne aussi parfois de ça. Moi, j'ai été vachement gouvernée par mes peurs de me lancer, peur de me faire confiance. Tu vois, j'aurais peut-être peur de faire un live, parce que je l'ai pas fait. Quand tu connais pas, t'es frileux. Et en fait, ben, cette frilosité, elle te bloque quelque part. Moi, j'ai perdu vachement de temps. Donc, ce que je me dirais un peu aujourd'hui, c'est plus, ben, peut-être déjà fais-toi un peu plus confiance. Fais confiance aux gens qui t'entourent et qui te boostent aussi un peu, parce que ils connaissent, et s'ils te disent que ils t'encouragent à faire ça, écoute-les aussi un petit peu. Et ouais, fais-toi confiance un peu plus. Il faut de la patience, on n'a rien tout de suite. Et tu vois, en méditation, on dit souvent, tu vois les nuages qui passent là, tu sais, tes pensées, et tu les laisses passer, tu t'accroches pas. Ben moi, je m'accrochais comme ça. Il faut faire confiance aussi à l'expatriation, dans ce qu'elle peut apporter. Elle peut apporter quelque chose. Il faut être ouvert à ces choses-là, faut les laisser arriver. Et du coup, moi, j'étais un peu plus fermée. Au début, j'ai eu un long moment, voilà, où je me disais, mais c'est pas ici que je vais réussir à m'épanouir professionnellement. Et puis, ben, en fait, c'est ici que j'ai réussi à publier avec des maisons d'édition en France, et puis ici à lancer un business dans l'édition. C'est complètement fou, en fait.
C'est énorme, c'est clair.
Et voilà. Donc,
ouais, t'aurais jamais pu imaginer, en fait, qu'il y a 5 ans, on serait arrivé là, si.
Pas. Et effectivement, j'aurais voulu me dire, lance-toi. N'aie pas peur, sois plus téméraire en fait.
Bah, franchement, c'est une magnifique conclusion qui donne envie de se lancer, que ce soit dans un projet personnel, un projet professionnel, un projet rémunérateur ou non. C'est un message plein d'espoir. Alors merci beaucoup, Charlotte.
Je vais juste rajouter un petit mot. C'est que on l'a dit, on fait partie de la même communauté, et du coup, ça me ferait très plaisir de faire gagner le livre.
Alors justement, j'allais y venir et je te remercie de m'y faire penser. Donc un immense merci de proposer de faire gagner 5 livres, pas moins que ça, à nos auditeurs partout dans le monde. Alors c'est une des premières originalités, je dirais, de ce concours, c'est que le concours n'est pas du tout limité de manière géographique. Le livre est donc en anglais. C'est une bonne occasion, si on ne parle pas couramment anglais d'ailleurs, d'apprendre un peu de manière ludique en famille. Les règles du coup de ce concours donc sont sous le post Instagram qui va publier cette vidéo. Il y a 5 livres à gagner. Il faut liker la page de Charlotte, qui est donc cha.beyondthebridge, et la page de French Expat le podcast. Donc je vous les mets ici sur la vidéo. On les remettra également dans le post. Et taguer 2 amis pour entrer dans le concours. Si vous voulez des chances supplémentaires de gagner, vous pouvez partager le concours et donc cette vidéo dans vos stories sur Instagram. N'oubliez pas, il faut que votre compte soit public pour qu'on puisse compter vos entrées. Merci beaucoup de proposer de faire gagner ça à nos auditeurs. C'est vraiment un super cadeau. Je sais que j'ai parlé justement à mon mari de notre interview, du livre que tu avais écrit. Il veut absolument qu'on investisse, parce que justement, je pense que ça va être un outil hyper utile. Alors, merci beaucoup, Charlotte.
Petit mot sur une petite carte postale.
C'est vraiment trop trop mignon, avec toute la petite famille effectivement qu'on retrouve donc dans le livre. C'est vraiment adorable. Merci beaucoup. J'ai intérêt à recevoir une carte, hein, Charlotte. Écoute, je te dis un immense merci d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi. Je te souhaite, ainsi que donc toute la communauté expat, on te souhaite beaucoup de succès avec ton livre. On souhaite à ton livre de rencontrer son public malgré la pandémie. Un grand bravo à toi pour ce projet familial, ce projet entrepreneurial. J'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains, de le découvrir. On aura beaucoup de plaisir donc à suivre la suite de tes aventures. Si on veut, donc on peut tout de suite se rendre sur ta page Instagram cha.beyondthebridge. À nouveau, toutes les infos seront dans les notes du podcast ainsi que dans la description de la vidéo. Je te souhaite donc un bel été en attendant la rentrée, et puis une bonne journée. À bientôt.
Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour cette plateforme d'expression, de m'avoir invitée. Je suis hyper contente, et puis j'espère que pour ceux qui auront le livre entre les mains, il vous plaira. À bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning.
French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.